Merci de votre présence. Je vois qu'on a du beau monde déjà devant vous. Alors, Philippe Nouni, vous voulez démarrer par de la numérologie, les numéros du jour.
Alors, les numéros du jour, voilà, c'est les chiffres du jour. Donc, le premier, c'est le 14, pour la 14e édition du Salon du Livre Pyrénéen de Bagnères de Bigorre. Le deuxième, c'est le 8, Philippe Subercase et Diego Arabal, parce que c'est la 8e édition pour laquelle nous venons faire cette émission littéraire, donc en direct, au niveau du Salon du Livre Pyrénéen de Bagnères de Bigorre. Et on va accueillir d'emblée nos invités, Diego Arabal.
Tout à fait. Nous avons nos invités avec nous. C'est Brigitte Barre, qui est la présidente de Binaros, donc qui va nous parler. Et puis ensuite, nous avons aussi Renaud de Belfond, que l'on ne présente plus, vu le nombre de fois où nous l'avons accueilli, et qui est chargé de mission auprès de Binaros pour l'organisation du festival, du salon.
Alors, on va préciser peut-être au départ le lieu dans lequel effectivement se déroule ce salon du livre pyrénéen de Bagnères de Bigorre, qui va avoir lieu les samedis 7 et dimanche 8 octobre. On va vous laisser en parler, Brigitte Barre, présidente, pour nous dire un peu le lieu, parce que par rapport à l'année dernière, notamment, il y a un accès qui est fermé, voilà, pour que les gens, à un moment donné, puissent trouver le bon chemin pour venir. À vous, Brigitte
Alors,
Barre.
Juste une petite précision, je suis maintenant coprésidente, puisque nous sommes 4 coprésidentes et présidents de l'association.
D'accord.
Ah, cela m'avait échappé.
Nous avait échappé.
Donc, Salon du Livre se déroule comme d'habitude au Carré Pi à Gerde. Mais là, en effet, il y a un petit souci puisque le pont de Gerde est fermé. Il faut donc passer par l'intérieur, je dirais. Donc, à partir du rond-point de ce qu'on appelle la route de Toulouse, suivre les flèches. Nous avons fléché la déviation. Et donc, il faut passer par derrière et non plus par la route principale qui remonte vers la Mongie. Passer à l'intérieur du village de Gerde.
Bon, voilà, c'est la route que j'ai suivie ce matin. Vous aussi, Diego, je suppose ?
Oui, mais c'est la route que je suis toujours en venant de Tarbes.
Voilà, donc on s'y retrouve très bien. Alors, on va parler, donc ça se déroule au Carré Pi, on va parler des horaires d'ouverture.
10h, 19h aujourd'hui samedi, demain 10h, 18h, avec ce soir un petit point d'ordre, comme d'habitude, à 18h30, la remise des prix du livre pyrénéen.
Allez-y, oui, allez-y.
Et puis, ensuite, à la Halle aux Grains, un spectacle d'Olivier de Robert à 21h.
La Halle aux Grains, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas, c'est situé donc à côté de la piscine
municipale.
D'accord, voilà, municipale de Bagnères de Bigorre. Voilà, pour celles et ceux qui iraient donc ce soir. Ce spectacle, il parle de quoi ce soir ?
Des Monts et Merveilles, moi je ne l'ai pas vu, donc c'est une surprise. C'est
Vous l'avez vu, Renaud de Bellefond, Des Monts et Merveilles, pour nous en parler ?
Le spectacle a été créé en juillet 2022 lors du Festival du Conte de Sorat. Non, donc moi je ne l'ai pas vu non plus. Et c'est un conteur et un musicien, puisque Jean-Paul Raffitte est musicien et quand même un musicien assez connu, qui se rencontrent et qui parlent un peu de la terre qui les porte et les transporte, de l'univers et du rêve. Voilà.
D'accord. Alors, on rappelle, on est en direct du Salon du Livre Pyrénéen de Bagnères de Bigorre. Vous entendez derrière des annonces. C'est tout le paysage sonore que nous avons comme chaque année lorsque nous organisons cette émission littéraire en direct. Alors, on va rappeler, Brigitte Barre et Renaud de Bellefond, les objectifs, l'histoire du salon, puis après on va passer aux animations du Salon du Livre Pyrénéen avant d'en venir effectivement au prix littéraire dont on parlait tout à l'heure. Les objectifs qui s'y collent, vous Brigitte Barre, j'ai bien noté co-présidente.
Alors je m'y collais. Donc le Salon du Livre est un espace qui permet de retrouver des exposants, des éditeurs, des auteurs, des photographes qui ont tous un lien. Pratiquement tous un lien avec les Pyrénées, puisque l'objectif de l'association Binaros, c'est de faire connaître et promouvoir les connaissances actuelles et passées sur les Pyrénées. Donc nous avons là des exposants, des libraires, des photographes tout autour du monde des Pyrénées. L'association, en plus du Salon du Livre, a également et un autre axe qui s'appelle Lire les Pyrénées, qui est l'organisation d'événements culturels en lien avec le livre sur toute l'année et tout au long de la chaîne.
Ok, donc ça c'est pour les objectifs. L'histoire, donc là c'est la 14e édition, on le disait tout à l'heure, hein, c'est le chiffre du jour, donc la 14e édition. Vous nous dites un petit mot un peu sur l'histoire, pourquoi avoir créé ce salon du livre pyrénéen?
Parce qu'il n'y en avait pas.
Parce qu'il n'y en avait pas. D'accord. Ben, merci. Voilà. J'ai c'est bien fait de poser la question.
Voilà. C'est une très bonne
c'est
réponse.
C'est une très bonne réponse. Hein. Bon, ben voilà.
Vous reviendrez en deuxième semaine.
On vous dit à l'année prochaine, chers auditeurs et auditrices.
C'était une idée de Stéphane, Stéphane Lévesque et Brianti. Et ça y est, j'ai un trou de mémoire. De Silvio Brianti. Silvio Brianti. Donc, dans les années de Marc Besson. De la librairie auprès de Pyrénées, qui est ici présente. Dans les fin des années 2010, puisque la première édition a eu lieu en 2010, et qui ont effectivement, il y avait un salon qui existait, je crois, sur Font Romeu un peu avant, qui a disparu, et ils ont repris cette idée. Bon, puis après, c'était des amoureux de livres et de livres sur les Pyrénées. Voilà, c'est parti comme ça. C'est eux qui ont eu cette idée-là.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette histoire, au niveau du Salon du Livre pyrénéen de Bagnères-du-Bigorre, on l'a vu dans les livres hein, récompensés les précédentes années, c'est pas que les Pyrénées côté nord, c'est aussi les Pyrénées côté sud. Je me rappelle notamment du roman moi, que j'avais trouvé extraordinaire, c'est peut-être celui que j'ai préféré de tous les prix qui a été primé, c'était La Montre à Gousset, hein, de cet auteur.
Éditions La Ramonda.
Voilà, des éditions La Ramonda et de cet auteur aragonais qui était venu, qui avait été vraiment fabuleux. Sur une traduction d'ailleurs, je me rappelle, hein, de Diego Arrabal, hein, qui nous avait. Bien aidé. Hein,
pendant, oui, puisque... pas la traduction du roman, la traduction, non,
la traduction
de l'interview.
La traduction d'interview, voilà, tout à fait.
Je n'ai pas les compétences pour être voilà. Traducteur de roman.
Voilà, et ça, c'est voilà, on le précise bien, c'est un côté, c'est les deux côtés, effectivement, de la chaîne Pyrénées.
Et d'une mer à l'autre.
Et d'une mer à l'autre, voilà, tout à fait. De l'océan Atlantique, de Biarritz, effectivement, jusqu'à Perpignan. C'est ce qui fait donc la particularité. On va dire un mot également de l'affiche, parce que chaque année, on parle...
On pourrait peut-être parler rapidement des animations qu'il va y avoir.
Oui, des animations, c'est vrai. J'allais oublier de parler des animations du salon, tout à fait.
Ah, heureusement que je suis le filage.
Heureusement que vous êtes là, Diego Arrabal.
Alors, tout au long des deux jours, il y a des rencontres, soit des projections, soit des tables rondes avec des auteurs ou... voilà. Notamment ben, ce matin, en ce moment par exemple, il y a un film qui passe qui s'appelle Auprès de ma bouse, de Manon et Patrick Luneau, donc qui après permettra, qui travaille sur l'écologie d'une bouse de vache, qui permettra de travailler avec un atelier cet après-midi sur l'écologie de la bouse de vache, les rigeurs de la bouse de vache, qui se terminera probablement par une bataille de bouse, ou un lancer de bouse plutôt, un lancer de bouse.
Sèche.
Voilà.
Vous y participez, Diego Arrabal, d'ailleurs, non?
Oui, je vais y participer, mais avec un masque.
Avec un masque, d'accord.
cet après-midi, il y aura une table ronde sur, sur les parcs nationaux entre tourisme et protection de la nature. Je vais faire un peu plus vite. Ce soir aussi, il ne faut pas oublier le spectacle à la Halle aux Grains à 21h. Qui est de Mont et Merveille, on en a parlé tout à l'heure. Et demain, on reprend les animations, les rencontres, comme ça. En plus, on a des cafés littéraires. Alors, on parlait tout à l'heure de la Montre à Gousset. Par exemple, cet après-midi, on a un café littéraire qui a été demandé par les auteurs et les autrices aragonaises autour d'un hommage à Charles Mérigot des éditions de la Ramonda, qui effectivement était la maison d'édition qui transmettait un grand nombre d'auteurs aragonais côté nord, qui faisait passer par de nombreuses traductions. Voilà. Donc c'est un moment d'hommage qui nous a été demandé effectivement par les auteurs de l'autre côté des Pyrénées.
Et puis une nouveauté cette année, enfin on avait déjà commencé l'année dernière, mais un développement de notre pôle jeunesse avec des ateliers, des lectures et des animations, dont un jeu de piste pour les plus jeunes, pour les enfants, qui est organisé dans un coin du Salon du Livre pyrénéen.
Ok, voilà pour les animations. Alors, on a prévu de parler de l'affiche, comme chaque année d'ailleurs, du salon et de l'artiste qui l'a réalisé. Parce que chaque année, hein, on a une affiche très, très originale avec un artiste, effectivement, qui l'a composée. Donc, on va en dire deux mots. Parce que moi, quand j'ai vu cette affiche, elle m'a beaucoup rappelé, vous savez, quand il y avait sur France 3 la fin de l'émission, où on voyait ces personnages qui volaient. Ça m'a fait vraiment penser à ça.
Bonjour.
Bonjour.
Alors oui, je suis Seb Caz et c'est marrant parce que depuis que j'ai fait ce visuel, j'ai plein de retours d'influences différentes qui sont peut-être inconscientes. Alors on m'a parlé du Petit Prince, on m'a parlé de Fred, de Philémon, et là celui-là c'est nouveau. Donc c'est chouette, Folon, mais c'est quelqu'un qui fait partie de mes références. Mais alors ça doit être inconscient pour la création de cette affiche, mais là c'est pas vraiment le cas, ouais. Mais
parce qu'il y a quelque chose de très aérien en fait dans votre affiche. Hein. On voit une montagne sur laquelle il y a un âne et un personnage effectivement qui marche avec une écharpe. Alors c'est vrai qu'on peut penser aussi au Petit Prince, hein, ouais. Puisque dans le Petit Prince on a aussi cette écharpe, hein, que l'on voit. Il y a aussi cette figure du personnage. Et c'est vrai que c'est une affiche vraiment légère et aérienne. Et c'est vrai que moi j'ai pensé, comme je vous disais, à ce qu'on voyait là sur France 3, ces personnages, vous savez, qui s'envolaient. Et c'était, je me rappelle quand je voyais ça, quelque chose de très doux, de très. Et c'est une affiche qui donne envie.
Ouais, alors moi j'ai commencé il y a une trentaine d'années à faire des affiches, surtout pour le milieu culturel. Donc c'est quand même un domaine qui permet une création graphique assez large. Et il y a un thème qui me suit aussi depuis ce temps-là, c'est l'absurde. Donc là, comme je concentre mon travail d'illustrateur depuis quelques années sur vraiment le milieu nature et montagne, là, ça m'a permis d'allier les deux. Donc, ouais, tant mieux si on ressent ce côté léger. C'est chouette. Enfin, je sais pas.
C'est ce que vous avez voulu y donner, vous, quand vous l'avez composé?
Moi,
vous
je cherche la poésie.
Ce côté aérien, la poésie.
Non, je cherche la poésie, l'absurde à travers la contradiction d'un rocher qui flotte. C'est marrant parce que les gens ils se focalisent d'abord sur le personnage. Alors que le plus gros truc bizarre, c'est ça, quoi. C'est la contradiction entre peut-être le sommet d'une montagne comme ça qui flotte un peu en mouvement. Et les gens s'attardent un peu plus sur le personnage. Donc c'est assez marrant, quoi, d'avoir des retours. Parce que moi, je manque du recul par rapport à une création. Toujours, c'est assez spontané. Et voilà, je fais justement peut-être travailler mon inconscient. Et c'est là que le travail est le plus intéressant, je trouve. Je m'inspire aussi beaucoup des rêves. Notamment dans mes premières BD, j'ai fait quelques scénars comme ça à partir de rêves et donc d'absurdes. Donc c'est ça qui m'intéresse en fait dans ma démarche graphique.
Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que ça télescope quand même votre idée de cette montagne qui vole, ça télescope un des prix qui a été décerné, dont on parlera tout à l'heure, et qui s'appelle La montagne inversée, et qui parle justement d'une attente qu'il y a eu à un moment donné, on ne va pas déflorer, à un moment donné autour du fait que cette montagne allait s'envoler et permettre à des élus d'être sauvés de la fin du monde. Mais on en reparlera tout à l'heure, quasiment en fin d'émission, par rapport à ce prix qui a été décerné. Mais c'est intéressant ce télescopage entre une affiche que vous avez produite à un moment donné, certainement très en amont par rapport au choix du jury, et que le jury tombe en termes de choix sur cette enquête, puisque c'est une enquête réalisée par deux journalistes qui, nous l'espérons, viendront à ce micro pour nous en parler, s'ils arrivent à temps, s'il n'y a pas de délai SNCF.
Bon, alors, on va enchaîner sur... Merci en tous les cas pour être venu effectivement nous rencontrer et nous parler de cette affiche. Oui, vous voulez dire un mot, Renaud.
Je rappellerai que Seb Caz a un stand au Salon du Livre Pyrénéen, donc on peut venir voir son travail, qui a effectivement toutes ces planches de botanique et de dessins qu'il fait sur la nature et tout ça, ses affiches, enfin, tous ses dessins. Et qui en plus, il met à disposition des crayons, des papiers pour les enfants et pour les plus grands.
Les
pour
adultes
dessiner.
Aussi, les voilà. Plus grands aussi, on voilà. Peut venir dessiner. Bon, voilà. Pas que les plus petits.
Donc vraiment, j'invite à venir.
Parce qu'on le sait, il y a Joseph qui est en studio à Lourdes, qui est un très grand dessinateur et qui aura certainement envie d'emmener ses enfants. Donc on lui lance un appel. Joseph, n'hésitez pas à venir avec vos enfants. Donc, au niveau du Salon du Livre Pyrénéen de Bagnères-de-Bigorre pour rencontrer effectivement Seb Caz. Voilà, c'est fait. On va enchaîner en parlant. Merci beaucoup d'être venu. Merci Seb. De la présentation des prix littéraires. Chaque année, il y a 4 prix littéraires qui sont remis en jeu. On vous laisse en parler. Qui prend la parole? D'accord, Renaud de Belfond.
Alors, ça fait depuis 2010 qu'il y a des prix littéraires au Salon du Livre Pyrénéen, depuis le début. Il y a des prix littéraires, donc on est au 14e prix du livre pyrénéen. cette année, comme on est au 14e salon. On reçoit à peu près 66 livres, on a reçu cette année, je crois me souvenir, qui ont concouru au prix.
Pour les quatre prix, 66
pour les quatre prix dans l'ensemble. Le jury est composé de 9 personnes et qui ont tout au long de l'année, depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'août, lu, sélectionné, relu, resélectionné les livres dans des débats souvent très riches. Voilà. Donc du coup, on arrive à la fin avec 4 prix. Un prix du livre Connaissance, un prix du livre Pyrénéen Connaissance, qui est donc donné cette année, on y reviendra tout à l'heure.
On y reviendra, oui.
À la Montagne inversée de Romain Lescurieux et Antonin Vabre aux éditions Marchiali. Un prix du livre Pyrénéen Guide qui est donné cette année à Hervé Frumy pour Pister les animaux de la montagne aux éditions du Mont-Blanc. Qui ont un stand, les éditions du Mont-Blanc ont un stand au Salon du Livre Pyrénéen, c'est quand même bien.
Donc nous recevrons le représentant tout à l'heure.
Ouais. Un prix du livre Pyrénéen Binaros qui a été donné à Toute la beauté du monde, c'est un roman graphique de Thomas Zuelos aux éditions Futuropolis. Et un prix du livre Pyrénéen Littérature qui a été donné à Jérôme Cochet et François Yenne. C'est la deuxième fois que nous primons une pièce de théâtre.
Ah, je pensais que c'était la première. D'accord.
Non, c'est la deuxième pièce de théâtre que nous primons. Okay. La première, c'était Avec peu de bagages en 2019, édité par les éditions La Ramonda.
La Ramonda.
Voilà.
Ouais.
Et donc aux éditions Libelle. Là. Voilà. Et dont on parlera aussi tout à l'heure. Voilà.
Donc, eh bien, très bien.
Bon, ben, on va commencer par la présentation, vous le disiez tout à l'heure, hein, Diego Arrabal, donc de Mordu de Montagne, de Jérôme Cochet et François Yen, donc aux éditions Libelle, collection théâtre, qui a été prix du livre pyrénéen, donc littérature 2023. Donc Mordu de Montagne, hein, qui est Diego Arrabal.
Voilà, moi d'habitude faire une petite chronique et puis nous allons échanger tous les trois avec Renaud qui donc a lu aussi le livre. Comment s'adapter aux changements climatiques qui bouleversent notre quotidien? Cette question devient vitale pour les habitants, et les habitués de la montagne. Dans cette pièce de théâtre, nous découvrons la fratrie Blottier, Fanny, Pierre et Benjamin, déchirés par des conflits liés à l'appréhension de la montagne. Il y a aussi des locaux vivant de cette montagne, des notables et des clients. Et surtout, la Grande Reine, sommet mythique des Hautes Aigues. Cette dernière cède face à la montée des températures, emportant une cordée de touristes. Le drame fait remonter les craintes et les exaltations, mais aussi les interrogations sur ce que sera demain. Mordu d'une montagne, Jérôme Cochet et François Yen, édition Libelle, collection théâtre, qui a obtenu le prix du livre pyrénéen littérature 2023. Alors, Renaud, qu'est-ce qui a mené le jury à choisir ce livre-là parmi l'ensemble des livres littéraires qui vous ont été proposés?
Alors, sûrement pas qu'il répond à un imaginaire pyrénéen, parce que quand on ouvre le livre comme ça, on voit bien que l'imaginaire de la montagne qui est là est très très alpin.
Tout à fait.
Et très alpinistique aussi, hein, avec des montées en refuge qui présentent des difficultés qu'on aurait du mal à trouver dans les Pyrénées. Ou des choses comme ça.
Il y a donc, des refuges pyrénéens quand même, il faut...
Oui, mais pas tel que c'est raconté là, avec le dénivelé.
Avec le dénivelé, ouais.
Et tout, je te promets. Et ni dans la pièce de théâtre. C'est qu'effectivement, je crois qu'il y a la qualité d'écriture tout le long. Ça a marqué le jury. C'était assez unanime, puisque moi, j'ai quand même assisté des fois à des réunions de jury. Donc, c'était très unanime sur la qualité d'écriture, l'intérêt de la lecture. Mmh. Et beaucoup de gens qui ont lu le livre s'y sont accrochés et plongés. Parce que c'est une pièce de théâtre qui se lit très, très bien. Je crois que ça, il faut le dire, ce qui n'est pas toujours le cas des pièces de théâtre.
Tout à fait.
Voilà. Et sur le fait qu'effectivement... Derrière cet exemple qui est imaginaire, mais même d'un imaginaire à peine, c'est quand même toutes les problématiques de la montagne et de la montagne pyrénéenne aussi, parce qu'on a les mêmes finalement qui se retrouvent.
Peut-être même plus exacerbées, dans le sens où on est des montagnes moins élevées et orientées différemment que l'arc alpin.
Ouais, mais nos éboulements sur les sommets de montagne sont ou passé, peut-être. Il faudrait rediscuter de ce qu'ont été les éboulements dans les années 80 sur le Balaïtous ou des choses comme ça. Peut-être qu'on n'avait pas pensé que c'était déjà du réchauffement climatique, mais ça pouvait l'être dans les Pyrénées. J'en sais strictement rien. Mais ça peut se... On n'a pas les mêmes éboulements que ce qu'il y a aujourd'hui dans les massifs alpins, notamment à Chamonix, quand on entend l'actualité. Chamonix, c'est des pans entiers de montagnes qui descendent des fois. On n'a pas ça ici, bien qu'il y ait... Moi, m'étant promené, même dans la vallée de Campan, j'ai découvert des éboulements assez importants dans des coins où je vais comme ça ces dernières années. Quoi. Voilà. Mais pas sur des parois. Donc, on n'a pas ce phénomène et nos glaciers, ils sont quasiment disparus, tandis que c'est vraiment... Nos glaciers n'alimentent pas nos cours d'eau, tandis que les glaciers des Alpes alimentent les cours d'eau, ce qui va être un autre problème aussi. Mais on retrouve toute cette problématique-là avec, bon, un peu présenté de manière un peu dichotomique, un peu noir et blanche, quoi. Mais ça, c'est le jeu du théâtre, c'est aussi pour mettre un peu... Et à côté de ça, il y a quand même tout un fil dramatique dans la pièce qui marche bien aussi. Voilà.
Et puis,
le récit de la montagne, le guide avec sa cliente, on passera sur les détails, il y a là quelque chose d'un fil dramatique qui marche très bien.
Ce qu'on voit bien, c'est moi j'ai trouvé que c'était pas forcément dichotomique, mais qu'il y avait une richesse de personnages qui abordaient les différentes facettes de la question qui se pose et la façon dont chacun, suivant sa position, hein, si on est éleveur, si on est guide, etc., perçoit les effets de ce réchauffement climatique et des bouleversements qu'il produit. Et donc, j'ai trouvé que c'était vraiment riche. On pourra peut-être tout à l'heure aussi apporter un mot sur l'organisation qu'ils font, les deux auteurs, puisque c'est aussi une compagnie de théâtre. Donc, ça serait intéressant d'aborder cet aspect de l'organisation théâtrale telle qu'ils la mettent en œuvre.
Enfin, je voulais y venir justement sur l'organisation théâtrale. Il faut savoir qu'effectivement, c'est la compagnie Les Lions Alignés qui joue cette pièce depuis plusieurs années déjà maintenant, je dirais 2 ans. Donc elle a tourné dans les Alpes, Alpes de la Suisse, au sud des Alpes, voire peut-être la Drôme, des choses comme ça, enfin, passer un peu de l'autre côté. Et elle était présentée ce mardi 3 octobre à Foix. À l'Estive, à la scène nationale de Foix. Donc, j'ai été voir la pièce qui tient bien la route, qui a de la dynamique. Le public était vraiment très content, c'était très très bien. Donc voilà, on espère que cette pièce, on pourra peut-être bien la voir un jour à Bagnères ou dans le cadre de nos manifestations sur le département, puisqu'on était quand même 8 acteurs culturels du département à s'être déplacés à Foix pour aller la voir.
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette pièce de théâtre, alors déjà, c'était la surprise de tomber sur un livre, puisque quand vous nous envoyez les livres, donc pour qu'on les lise, hein, avec Diego Herrabal, pour préparer effectivement cette émission, on ne sait pas si ça va être une pièce de théâtre qui est récompensée, un roman, un polar, je veux dire, on le découvre comme ça. Et c'est vrai que quand je l'ai vu au départ, je me suis dit, tiens, je ne me souvenais plus qu'en 2019, effectivement, vous aviez récompensé une pièce de théâtre. C'était pour moi l'originalité de cette pièce de théâtre qui soulève des thèmes qui vont bien au-delà de l'environnement. Il y a la fratrie entre cette jeune femme qui tient un refuge et son frère qui a décidé de devenir guide, avec ce père qui est mort et elle qui n'a pas souhaité devenir guide parce qu'elle ne souhaitait pas inquiéter sa mère, et son frère finalement qui a pris le relais. C'est à un moment donné tous ces destins qu'il peut y avoir et où elle s'inquiète quelque part effectivement pour lui. On sent qu'il se parle un peu méchamment, mais qu'à travers les mots méchants qu'il y a, il y a un amour énorme entre un frère et une sœur où elle s'inquiète. Et quand lui décide effectivement avec cette femme, moi je trouve que cette histoire elle est très belle, cette femme qui est malade, qui sait qu'elle est atteinte d'un cancer et qui se dit je veux arriver à atteindre cette montagne, je sais que c'est dangereux, mais de toute façon je sais que je vais mourir. Et le rôle d'un guide normalement c'est de protéger son client ou sa cliente. Et là, il se dit à un moment donné, est-ce qu'il y a cette histoire de liberté qui rentre en ligne de compte ? Est-ce que je peux y aller ? Alors, avec cette limite, c'est que si on a un accident, c'est qu'il faut que le peloton de gendarmerie de haute montagne vienne les aider. Donc, on met en danger la vie d'autres personnes. Il y a toute cette réflexion, je trouve, qui est très bien, qui est vraiment axée sur la montagne. Moi, je vois là où j'habite, tous les week-ends, je vois l'hélicoptère du PGHM qui passe au-dessus de chez moi. Donc, il part faire des interventions en montagne. Donc, à chaque fois, je me dis, tiens, voilà, il y a quelqu'un en haut qui a dévissé. Puis, quand je le vois revenir, je dis, voilà, il y a quelqu'un à bord. Est-ce qu'il est blessé ou pas ? Je le vois dans le journal un peu plus tard. C'est une personne qui est morte, c'est une personne qui a dévissé, c'est une personne... Et je trouve que ce qui est très intéressant, effectivement, dans cette pièce de théâtre, c'est que ça met la montagne en comment dirais-je, la montagne devient quelque part un acteur de cette pièce, une actrice plutôt de cette pièce de théâtre. Et où en fait on montre que la montagne, les gens qui viennent de loin, qui ne sont pas habitués à la montagne, voient ça comme un univers absolument extraordinaire. Alors que la montagne, ça reste un univers dangereux. Ça reste un univers où la place de l'homme, elle est pas forcément dévolue d'entrée, quoi. Et je trouve que c'est ce que met très bien cette pièce en exergue. Alors après, ce qui est intéressant, et il faut le dire aux personnes qui nous écoutent, qui vont lire effectivement cet ouvrage, c'est de voir dans quelles conditions elle a été jouée. Et ça, c'est à la fin. Sur le propos, non pas le propos liminaire, mais le propos final. C'est qu'ils ont joué, y compris donc, dans des pièces de théâtre, mais aussi dans des chalets, avec quasiment aucun décor. Ils ont fait le décor avec les gens qui étaient là. Et donc les gens qui étaient là, qui voyaient cette pièce de théâtre, qui ne savaient pas forcément qu'elle allait avoir lieu à l'intérieur donc des refuges, tombent d'un seul coup sur une pièce de théâtre. D'habitude, une pièce de théâtre, on y va. Et là, par moments, elle se joue alors même que les gens ne s'y attendent pas. C'est cette originalité, moi, j'ai trouvé extrêmement bien, de la jouer dans un lieu où se déroulent effectivement des enjeux par rapport au réchauffement climatique qui sont considérables. Et moi, quand je l'ai vu, j'ai pensé au glacier d'Ossau. J'ai fait le glacier d'Ossau en 92. Très franchement, aujourd'hui, j'ai plus envie de le faire. Parce que si j'y vais, j'ai la mémoire depuis le refuge de Baïselance de comment est le glacier d'Ossau. Je me dis, mais si j'y vais, je vais pleurer, quoi. Parce que je sais qu'il s'est considérablement réduit et je préfère conserver cette belle image que j'avais. Et c'est ce que montre aussi cette pièce de théâtre. Et c'est que demain, on sera peut-être sur des souvenirs, sur des photos que l'on regardera pour se souvenir du plaisir que l'on a eu effectivement en montagne. Donc voilà, je trouve que cette pièce de théâtre, elle met vraiment en exergue des enjeux assez, assez forts.
Alors moi, c'est une question qui me taraudait un peu en lisant la pièce. Et puis ensuite, bon, quand j'ai lu le texte final, j'ai un peu compris, mais je pense qu'il faut le voir. C'est effectivement, je me demandais comment... ça pouvait être mis en scène. C'est une question... Bon, moi, j'ai pas mal bourlingué au niveau théâtral dans ma jeunesse et même un peu plus tard.
Non, vous êtes jeune toujours, Diego Rabal, non, rassurez-vous.
Mais c'est vrai que c'est une question que je me posais souvent quand je lisais, quand j'allais voir une pièce. Je lisais souvent la pièce avant d'aller la voir et de la chroniquer. Et souvent, je lisais la pièce et je me disais, mais comment le metteur en scène va la mettre en scène, etc. Et donc après, je découvrais le travail du metteur en scène. Mais c'est vrai que... cette découverte, elle était, je dirais, une demi-découverte. J'avais déjà des idées de comment le metteur en scène allait pouvoir faire. Là, la question qui se pose, c'est comment transmettre, ou du moins, comment reporter dans un lieu qui n'est absolument pas du tout un lieu ouvert. Hein, le théâtre, c'est trois murs, et puis le quatrième, c'est les spectateurs. Comment reporter dans un théâtre quelque chose qui a sa place en pleine nature. C'est-à-dire que même quand on est dans le refuge, il y a la montagne autour, il y a les sentiers, etc. Donc je me disais, mais comment est-ce qu'ils font ? Donc moi, je ne sais pas, Renaud, vous n'avez pas encore vu la pièce ?
Si, vous l'avez vu. Alors, moi, j'ai trouvé que la mise en scène était plutôt bien, mais très bon, avec un décor de fond qui bouge, mais qui n'est pas une vidéo filmée. Hein, il y a des moments. Voilà. Et des choses très simples, ça marche très bien en même temps.
D'accord.
Mise en scène, vraiment. Mais après, ils ont plusieurs. Moi, j'ai vu la pièce en espace spectacle, mais ils ont effectivement plusieurs mises en scène pour
les différents types
pour les
de
différents lieux. Voilà.
Ouais. Mais c'est vraiment c'est une pièce à voir, à mon avis, et peut-être à revoir plusieurs fois dans différents lieux,
oui,
et à
exactement.
Lire, parce que oui. C'est vrai qu'il y a une qualité littéraire qui est indéniable. Merci. Eh ben, on va peut-être passer...
on va enchaîner, oui, on va enchaîner tout à fait.
On va déchaîner
et enchaîner effectivement avec Alain Poulot.
Qui représente les éditions du Mont-Blanc.
Exactement, qui représente
qui est, qui est libraire, mais il n'est pas là aujourd'hui comme libraire.
Venez vous installer.
Il n'est pas là comme libraire, mais il est là comme représentant des éditions Mont-Blanc. Les éditions qui ont publié là-haut, parce que c'est vrai qu'on parle, on dit pister les animaux de la montagne, mais on oublie que c'est là-haut, pister les animaux de la montagne, mais c'est tellement écrit en haut qu'on oublie de le lire.
Et c'est le nom de la collection.
Oui. Alors, c'est la collection qui s'appelle là-haut. D'accord. Là, oui. Ok. Alors,
la chronique tout d'abord de voilà. Diego Rabal.
Voilà. Je vais faire une petite chronique et puis après on va se faire un petit duel. Là, il est juste en face de moi, Alain, donc on va se faire un petit duel. Très amical. Hein. Là-haut, Pister les animaux de la montagne est un petit guide au format bande dessinée. On y apprend à identifier quelques hôtes de nos montagnes, des chamois, des lièvres, des lynx, des cerfs, des sangliers, des rapaces, des oiseaux non rapaces, etc. À travers plusieurs entrées, marcher, habiter, crotter, manger, perdre, le néophyte apprend à distinguer les traces laissées par ses compagnons sauvages. Tout cela à l'aide de deux explorateurs en herbe, Agathe et Momo. L'auteur nous propose des mises en situation, des petites énigmes et des vignettes informatives qui raviront aussi bien grand que petit. Un ouvrage ludique et pédagogique pour une initiation nécessaire. Pister les animaux de la montagne, Hervé Frumy, édition du Mont Blanc, prix du livre pyrénéen, guide 2023. Alors, Alain, pouvez-vous nous... Oui, pardon, Renaud.
Juste, je voudrais excuser Hervé Frumy qui sort de maladie et c'est pour ça qu'il est absent.
Bon, bien, on lui souhaite un bon rétablissement.
Voilà, tout à fait. Alors...
Votre question, Diego Arrabal.
Ma question, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce livre-là particulièrement?
Alors, à ce livre-là et à la maison d'édition de Mont-Blanc. Catherine Descivel, il se trouve qu'on a une double culture. On vient de Suisse et du nord des Alpes. Et on est installé depuis 5 ans dans les Pyrénées, à Arreau. Et donc j'ai voulu emmener un petit peu de ce que je connaissais d'un autre massif. Mmh. Donc on travaille directement avec cette maison d'édition depuis 5 ans. Et j'aime beaucoup d'abord l'esprit, la démarche des éditions du Mont-Blanc. Catherine Descivel a assuré une reconversion assez extraordinaire dans le domaine de l'édition. Et en 10 ans, assez rapidement, donc, elle a fait un catalogue assez complet, à la fois récits alpins, himalayens, livres techniques, beaux livres, mais aussi maintenant le secteur jeunesse. Et cette collection là-haut qui vient d'être primée ici à Bagnères en est l'illustration parfaite. C'est une très belle collection. Alors pour les lecteurs jeunesse et qui aiment la montagne et d'autres biotopes, on connaît chez Milan depuis pas mal d'années, copains de la montagne, enfin voilà, copains des bois. C'est une collection qui est complémentaire, qui a une approche peut-être un petit peu plus dans la sensibilité d'aujourd'hui, mais qui est un petit peu sur la même, le même créneau. Mm-hmm. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé dans cette collection, vous l'avez fort bien présenté, mais c'est que ce n'est pas simplement l'observation d'humains, d'enfants, de la nature, mais on se met pratiquement dans la tête d'une marmotte, d'un oiseau, voilà. Et dès la première page, on voit un paysage où l'humain voit une forêt, des nuages, et l'animal va voir un mâle sur un versant, un secteur dangereux avalancheux, éventuellement un endroit où il y aura de la nourriture à aller, enfin bon voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce double regard.
Ce décentrage du regard humain qui est relativement uniformisant à un regard animal qui lui va être beaucoup plus analytique et beaucoup plus fin.
Voilà. Et c'est vrai pour pister évidemment, mais dans toute la collection, il y a 2 ans est sorti Alpage, où là aussi on découvrait la vie quotidienne en alpage au travers du regard d'un berger, mais aussi ce que pense un mouton en alpage ou le chien. Enfin voilà, c'est toujours la même démarche.
D'accord. Philippe, est-ce que vous avez des questions?
Alors moi, ce que j'apprécie beaucoup, de façon générale, au niveau du Salon du Livre pyrénéen de Bagnères du Bigorre et dans les prix qui sont remis, c'est que les livres que l'on a là ne sont pas forcément des livres qu'on irait acheter spontanément. Et je trouve que l'ADN de l'émission littéraire, qu'on a un jour un livre, un auteur, est de venir, depuis maintenant 8 ans, puisque je disais tout à l'heure, dans les chiffres du jour, il y a le 8, c'est la 8e fois qu'on vient depuis 2015 donc au Salon du Livre pyrénéen de Bagnères du Bigorre, c'est de faire découvrir et lire à des gens des livres qu'ils n'ont pas forcément prévu de découvrir et de lire. Et je trouve que ça, c'est quand même spécifique. Moi, quand je l'ai eu, ma femme qui a travaillé donc en édition jeunesse m'a dit, tiens, est-ce que je peux le lire? Ben, je lui ai dit, écoute, oui, je lui ai dit, il faut que je le lise aussi, que tous les deux, on le regarde.
Tu ne le sais pas.
On est des adultes, voilà, exactement. voilà, exactement. Et c'est vrai que tu dis tout à l'heure, bon, on pensait à Joseph pour le faire lire avec ses enfants, parce que c'est aussi un livre pour les enfants, mais oui, c'est aussi un livre pour les adultes. Voilà, parce qu'il est fait de façon très pédagogique, mais aussi de façon très intelligente, c'est-à-dire que c'est un livre qu'on peut lire pour soi, et c'est un livre qu'on peut lire pour les autres. Et je trouve que quand un livre a cette capacité à pouvoir être lu pour soi, donc où on entend des mots intérieurs, et pour les autres quand on le lit pour des enfants, soit pour un enfant, soit j'imagine bien un grand-père, une grand-mère, un papa qui va le lire devant un parterre d'enfants, ou dans une médiathèque. Voilà, une animatrice qui va le lire devant une dizaine ou une quinzaine d'enfants qui vont être là, écouter, etc. Et en montrant également, et c'est ça qui est très bien, c'est pas que des mots, c'est aussi des images. Alors comme on est à la radio, on voit pas effectivement les images. Donc notre boulot ici avec Diego, c'est aussi de rendre les images visibles par le biais de mots. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le menu, c'est la façon dont vous l'avez rédigé donc en page 5, c'est marcher, deux points, les traces de pattes, habiter, les terriers et les nids, crotter, les déjections, manger, donc on pense risque, ils vont manger. Non, c'est des cônes, pelotes de réjection. Là, on pense effectivement aux chouettes, aux hiboux, etc. Donc à tous ceux, et ça, je trouve que c'est vachement bien. Les cônes, pelotes de réjection et écorce, perdre les plumes, poils et mues. En fait, tous, quand on va marcher, on va tomber sur ce genre de choses. Et l'avantage, c'est que là, au lieu de les voir et de ne pas savoir ce que ça veut dire, on a d'un seul coup la capacité d'avoir une grille de lecture avec cet ouvrage.
Alors,
et ça, je trouve que c'est très intéressant.
Mais je veux dire qu'on peut aussi rencontrer cela sans le voir. C'est ça qui est le plus
exactement
terrible. C'est qu'on peut se balader et c'est on vrai. Passe à côté d'une crotte de réjection, etc., etc. Parce qu'on n'est pas attentif à ça. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que ça attire le regard sur des choses que nous ne voyons pas lorsqu'on se balade.
Oui, oui.
Et alors, moi, je rajouterais, par rapport à ce que vous dites, Diego Arrabal, je vois souvent des gens, moi, quand je marche en montagne tous les week-ends, je vois souvent des gens qui marchent avec de la musique sur les oreilles. C'est à la montagne, c'est aussi effectivement des sons.
Ouais.
Et d'un seul coup, je me dis, bah, tiens, ils s'inventent des sons qui ne sont pas les sons qui correspondent à l'endroit où ils sont. Et je trouve que c'est dommage parce que quand, par exemple, je vais marcher en montagne, notamment en hiver, quand il y a de la neige, bah, les traces que l'on voit là, hein, les différentes formes de pattes, hein, que l'on a en page donc 19 de l'ouvrage, ben souvent je me demande ce que c'est. Mais c'est bien que je me le demande. Et avec ce livre, je trouve que l'avantage, c'est qu'à un moment donné, on peut effectivement après savoir ce que c'est. Si on est, qui plus est, avec un jeune enfant, ben, on peut se dire après, ben, écoute, quand on va revenir à la maison, on pourra effectivement regarder ce que c'est. Et je trouve que dans les photos que vous avez, les photos sont très pédagogiques. Et les dessins aussi. Par exemple, quand on a le blaireau, vous expliquez comment est fait le terrier du blaireau. Et ça, je trouve que c'est particulièrement le terrier du blaireau et le terrier également donc, du renard. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que vous mettez un dessin qui est abordable aussi bien pour un enfant que pour un adulte. Voilà. Et... moi, je le redis encore une fois, bravo au Salon du Livre Pyrénéen de Bagnères du Bigorre et au jury, qui est capable à un moment donné de nous faire découvrir et lire des livres qu'on n'aurait pas prévu ni de découvrir ni de lire. Voilà. Et ça, franchement, chapeau. Vraiment.
Mais c'est tout à fait la démarche d'Evelyne Frumy qui voulait faire partager d'abord à ses enfants et puis finalement à un public plus large d'enfants et d'adultes ses découvertes, ses vagabondages à travers la montagne. Et je trouve que c'est très réussi, je suis tout à fait d'accord avec vous.
C'est très bien. Et puis bon, comme le disait tout à l'heure très justement Diego, on a Agathe et Moumou. En fait, Agathe et Moumou sont nos yeux qui nous permettent effectivement d'avoir ce regard qu'on peut à un moment donné transmettre. Et je trouve que cette volonté à un moment donné de dire eh ben, on va avoir un fil conducteur, où on va prendre le lecteur non pas par la main mais par ses yeux. On dit souvent on amène les gens par la main, on amène les gens effectivement par le regard. Et on peut effectivement les emmener en montagne pour leur montrer tous ces éléments-là. Mais aussi en plaine, parce que par exemple quand on a ici la taupe, on ne va pas en trouver qu'en montagne. On va en trouver par moments, effectivement, dans les jardins.
Ce
que j'ignorais, c'était que la taupinière la plus grosse, c'était celle de l'endroit où il y a le terrier. Donc, moi, je pensais que c'était une motte comme une autre. J'étais incapable de savoir que c'était l'endroit où se situait le terrier. Je vous opinais du chef, Philippe Subercaz. Je pense que vous l'avez appris, vous aussi. Que vous ne le saviez pas, que c'était...
Absolument pas, non.
Bon, mais voilà. Vous savez, on a bien fait de venir aujourd'hui.
En fait, le samedi, moi, je me cultive et je m'enrichis avec vous.
Bon.
Et avec tous les gens, bien sûr, qui
écrivent. Et avec tous les gens, tous les invités, effectivement, que l'on a. Voilà, donc ça, c'est vraiment un ouvrage qui est intéressant. Donc, on le redit hein, encore une fois, hein, le Salon du Livre Pyrénéen de Bagnères de Bigorre. Hein, on l'a dit tout à l'heure, samedi 7, dimanche 8 octobre. Donc, venez, hein, c'est ouvert entre midi et 2. On n'a pas parlé de la restauration. Si vous venez, il y a la possibilité de pouvoir se restaurer et surtout de rencontrer les auteurs, les éditeurs, de pouvoir se faire dédicacer les romans, discuter autour effectivement des livres. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'à un moment donné, on a ce regard effectivement qui est vraiment intéressant. Et nous, notre rôle, hein, on n'est que des passeurs de lumière hein, au niveau de l'émission « J'ai un jour un livre, un auteur hein. ». La lumière étant effectivement les livres que l'on présente. Et celui-là est vraiment extraordinaire. J'ai beaucoup aimé aussi les mues hein, sur le papillon. Voilà, où on présente à un moment donné donc, la chrysalide et puis où on arrive effectivement jusqu'au papillon. La façon dont c'est présenté, c'est très pédagogique, je trouve, pour un enfant. Voilà. Et moi, je trouve que ce livre, il permet aussi d'avoir un lien avec un enfant sur ce qui est beau, sur ce qui nous entoure et à un moment donné sur l'appropriation de la nature et sur le respect de la nature. Hein. On a vu dans ce dont on parlait tout à l'heure, mort d'une montagne, sur celui qui est récompensé, le réchauffement climatique, toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Ce livre, pour moi, c'est aussi un mode de prévention pour éduquer les enfants et leur dire qu'à un moment donné, l'environnement que l'on a autour de soi, mais il faut le respecter. Et je trouve que voilà, il participe à ça. C'est un très beau livre. Et moi, en tout cas, je me suis régalé, Diego, à le découvrir. J'étais surpris quand je l'ai vu. Je me suis dit, tiens. Et forcément, c'était une surprise auquel je ne m'attendais pas. C'est pour ça que je rappelle encore une fois que ce n'est pas un livre que j'aurais été chercher, moi, en allant dans une librairie. Et le fait qu'à un moment donné, il soit présenté, ben, j'ai un regard qui est complètement différent. Et je trouve que c'est vraiment très bien. Donc, félicitations encore une fois au jury d'avoir choisi celui-là.
Oui. Alain Poulot, vous êtes... Oui, pardon.
Oui, juste sur le jury, c'est vrai que dans les... Ce qu'on présente aux nouveaux membres de jury un peu tous les ans et tout ça au jury, c'est effectivement d'avoir un esprit ouvert par rapport à ce qu'est le monde de Pyrénéen. Et c'est vraiment ça qu'on veut. On veut pas qu'on, au contraire, on pourrait penser qu'un prix du livre pyrénéen, c'est quelque chose qui va s'ancrer très profond, très profond. Et non, on veut que ce soit ouvert, que ça soit aussi des discussions avec le monde autour, quoi. Voilà.
Mais c'est ça qui est bien, moi, je trouve, voilà, c'est qu'il y a cet esprit d'ouverture et ça se sent effectivement au travers des prix qui sont remis. Puis je pense que ça doit faire plaisir de voir que vous êtes aujourd'hui avec nous, là, pour...
Ah, moi, je suis ravi et puis je suis ravi de l'ouverture de cette manifestation sur d'autres montagnes. Je crois que Passy, il y a quelques semaines en arrière, a fait une petite incursion puisque les éditions Mont-Hélios étaient invitées à Passy. Et je trouve que c'est très bien cet échange entre montagnards et entre massifs.
Très bien. Bah, écoutez,
Il y a quelques années, un de nos exposants était à Passy et avait mis une affiche au Salon du Livre Pyrénéen.
Ah, bah d'accord, ok. Et alors, résultat ?
J'en sais rien, le résultat.
Ça aurait été intéressant de savoir ce que voilà. Ça avait donné.
Donc voilà, on va se faire une petite pause musicale si Joseph veut bien
la lancer. Si Joseph veut bien nous pousser la chansonnette. Donc voilà,
Et puis après, nous allons continuer avec les autres primés. Merci Alain d'être venu jusqu'à nous.
Merci beaucoup Alain de nous avoir accompagnés.
Merci beaucoup.
Alors je ne vais pas chanter, je vais laisser l'exclusivité à Vianney qui nous chante « N'attendons pas » juste avant de vous retrouver en direct du Salon du Livre de Bagnères de Bigorre.
Il est lundi, maudit matin, ce que je fais ne me plaît pas. C'est décidé d'ici demain, c'est plus moi. Il est parti, l'amour au loin, j'en ai pleuré pendant des siècles. C'est décidé d'ici demain, je m'arrête. Je fais de la vie mon drapeau, je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser, on n'a pas le temps de se tasser. On n'a pas le temps de languir, on n'a pas le temps mais des années. On n'a pas le temps non mais la paix, on n'a pas le temps de languir. N'attendons pas. Il n'est jamais venu l'ami, l'ami qui promettait la lune. Demain je décroche sans lui, Saturne. Il n'est jamais venu le train qui mène au paradis. Demain je mène mon chemin, la vie mon drapeau. Je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser. On n'a pas le temps de se tasser. On n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps, mais des années. On n'a pas le temps, non, mais la paix. On n'a pas le temps de languir. N'attendons pas.
N'attendons pas, c'était le chanteur Vianney sur Radio Présence.
N'attendons pas.
Radio Présence à Auch, 89.6.
Et nous n'allons pas à Auch, mais bien à Bagnères-de-Bigorre pour la suite de cette émission spéciale en direct du Salon du Livre. Nous retrouvons Philippe Subercase.
Et oui, merci Joseph. Alors effectivement, c'est pas vous qui avez chanté, mais je pense que vous auriez fait aussi bien que Vianney. Mais voilà, donc nous, effectivement, on est bien à Bagnères-de-Bigorre, au Carépi. Mais si vous savez pas chanter, au moins vous savez jouer de la musique, et ça, c'est déjà pas mal, et c'est très fort. Voilà. Et voilà. Donc ici, on parle pas de musique, mais de littérature. Je sais pas si vous avez remarqué, Philippe Donny, que pour le Salon du Livre, Diego Arrabal a changé son système informatique. Il est passé de la tablette à un petit PC portable et qui lui va très bien avec sa petite souris qui fait plein de lumière.
Et puis, vous avez vu qu'il a Titi Canary, quoi. Je veux dire, vous vous souvenez, c'était la une est à vous au tout début des années 70, quand on votait, vous vous souvenez,
c'est ça.
Pour avoir...
Vous étiez au berceau animé. Tous les deux,
voilà.
Là.
Ah ouais, ah ouais, non, mais je m'en souviens, moi. J'ai 58 ans bientôt, vous voyez, donc je me souviens très bien de cette période.
Ah, puis en plus, un bel ordinateur avec une belle pomme.
Bon, on accueille la librairie, donc le Vent des mots, pour parler de ce troisième roman graphique, voilà, qui est, on pourrait dire, roman graphique ou bande dessinée qui est primée. Donc Pierre Aragon, que l'on accueille, merci d'être avec nous pour Toute la beauté du monde de Thomas Azuelos aux éditions Futuropolis, bon, une grande maison d'édition pour la bande dessinée, oui. Voilà, qui a été prix du livre pyrénéen Binaros 2023. Et on va commencer, comme habituellement, par la chronique
de Diego
Arrabal.
Voilà. Un hôtel surplombant la mer, une gare transformée en terminus, des femmes en attente de travail, un peintre recherchant en vain représenter la beauté, un inconnu faisant la cuisine pour qui veut bien, un philosophe au-delà du désespoir, des anarchistes catalans, des agents soviétiques. Voilà le cadre et les protagonistes de cette fresque crépusculaire. Nous sommes en 1939 à Cerbère. La guerre d'Espagne vient de se terminer et le monde est suspendu au bord de l'abîme. Comme semble suspendu le temps pour tous ces personnages. Les cases d'action s'étirent tandis que celles du vide s'amoncellent en dégradés sombres où les ombres elles-mêmes sont plus noires que les ténèbres. Dans cette BD, l'auteur plonge son lecteur dans une léthargie envoûtante, à l'instar du désert des Tartares de Buzzati ou d'En attendant Godot de Beckett. Toute la beauté du monde de Thomas Azuelos aux éditions Futuropolis, prix du livre pyrénéen Binaros 2023. Alors, Pierre, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a frappé dans ce roman graphique ? Parce que c'est plus qu'une BD, c'est un roman graphique. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce roman graphique et qui fait que vous avez eu envie de le porter dans votre librairie et que aujourd'hui vous allez nous en parler ? à la place de l'auteur qui, lui, ne pouvait pas être là.
Oui, alors bonjour à tous déjà. Ce qui m'a frappé dans ce roman graphique, j'ai envie de dire déjà le titre, Toute la beauté du monde. On se dit mais qu'est-ce qu'on va y trouver derrière ? Et on y trouve tellement de choses à l'intérieur. Dès qu'on ouvre la couverture finalement, entre, vous l'avez dit dans ce très beau résumé, entre ce peintre qui va essayer de chercher la beauté pour en faire une fresque sur un mur blanc. Ce cuisinier qui va apporter la beauté par la nourriture, par la bouche, par les odeurs, parce que ce livre est finalement, il n'y a pas que de l'image, il y a aussi de l'odeur et du goût par ces poissons le cuisinier qui est aussi pêcheur, qui va aller chercher le poisson, qui va aller le cuisiner, qui va aller l'agrémenter avec on parle de piment, on parle de tomates, on parle d'ail, d'oignon, enfin voilà, moi je sentais ces odeurs là en même temps que je le lisais, et évidemment par ce philosophe qui arrive là et qui essaie de protéger absolument le secret de l'univers de mémoire, voilà, qui...
Alors c'est un dire l'action est une action fictive,
oui.
Mais une partie des personnages sont des personnages réels. C'est-à-dire que le philosophe Walter Bergman dans le roman graphique fait référence à Walter Benjamin. Qui s'est suicidé, ou du moins ça c'est une des thèses, puisqu'il y a une deuxième thèse qui est celle que privilégie, semble-t-il, Azuelos, qui a été assassiné par des gens du NKVD, semble-t-il. Donc là, on est sur les deux thèses qui s'affrontent. Mais ce qui est vraiment très fort, c'est d'utiliser ce contexte de fin du monde, parce qu'il faut être clair, c'était la fin du monde, c'est le moment de l'abîme, et d'utiliser ce contexte et de nous le faire vivre, et de nous amener à ressentir. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose qui est intellectualisé, mais qui est éminemment sensible. On est vraiment dans quelque chose qu'on ressent. Est-ce que c'est votre cas, cher Philippe ?
Alors, moi, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le fil rouge. Moi, Toute la beauté du monde, c'est pas une BD sur laquelle j'aurais été comme ça spontanément. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc par rapport au prix pyrénéen. Pierre, je disais que la grande particularité de tous ces prix, c'est de faire découvrir et lire aux gens des livres et des BD que personnellement, je n'aurais pas forcément lu et découvert au départ. C'est, je pense, à un moment donné, toute la qualité, effectivement, de ces prix que nous amener là-dessus. Futuropolis, c'est une très grande maison d'édition. Pour autant, ce n'est pas le genre de graphisme que j'aurais forcément été lire. Quand je l'ai lu, je comparerais ça un peu à Jacques Mayol, hein, record du monde de descente en apnée. On est en apnée du début jusqu'à la fin. Je suis rentré dedans, je me suis mis dehors l'après-midi, il faisait beau, là, une belle après-midi, tout ça. Je me suis mis à l'ombre d'un chêne, là, chez moi, et puis je l'ai lu du début jusqu'à la fin. Je suis rentré, je dis à ma femme, putain, je viens de me lire une BD, là. J'ai dit, franchement, une excellente BD, quoi. Franchement, je lui dis, un choix du jury, encore une fois, hein, je reparle du jury du Salon du Livre pyrénéen de Bagnères du Bigorre, qui est véritablement donc excellent. Qui plus est, bon, c'est sur fond de Ritirada, c'est sur fond, effectivement, d'espionnage russe. Alors, ça a des accointances. Moi, j'ai trouvé avec ce qui se passe actuellement. J'ai pas pu m'empêcher de... par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et en Russie, effectivement, d'y voir ce type de... un lien, effectivement, avec l'actualité. Et c'est vrai que je suis comme vous, Pierre. Le titre m'a interpellé. Toute la beauté du monde. C'est quelque chose quand même qui frappe, quoi. Et toute la beauté du monde dans cet hôtel, et j'ai ressenti comme vous, hein, par rapport au livre de Dino Buzzati, hein, où il y a cet homme effectivement qui est dans ce fort, qui attend que...
Voilà. Attend les armées tartares.
Les armées tartares qui arrivent, et puis au moment où il est malade à la fin, c'est là où les armées tartares arrivent, et il n'a plus la santé nécessaire pour pouvoir effectivement donc les affronter. Voilà, c'est l'attente de toute une vie. Et on sent que tous ces personnages attendent quelque chose du monde. Ils attendent une certaine beauté du monde. Le cuisinier attend de composer une certaine beauté du monde. Le peintre attend de composer une certaine beauté du monde. Et en fait, c'est un puzzle qui est composé par l'ensemble de ces personnes qui chacun vont avoir un bout du puzzle où ils tentent de donner une beauté du monde. Et voilà. Et moi, je trouve que, franchement, c'est une BD très réussie.
C'est cette notion de puzzle, je la trouve très intéressante parce que justement on va la retrouver dans la fresque dont je parlais tout à l'heure. Ce mur qui est blanc au départ et qui va être recouvert petit à petit par ces trois personnages.
Ouais.
Dans des choses
différentes. Où on va voir et en même temps la beauté, il y a aussi les orangères, c'est-à-dire ces femmes qui se retrouvent désœuvrées. C'était des femmes dont le rôle était de décharger des trains chargés d'oranges. Et qui se retrouvent sans travail, tout simplement parce que les liaisons ferroviaires ne fonctionnent plus. Donc les oranges d'Andalousie n'arrivent pas jusqu'en Catalogne, jusqu'à Cerbère. Et donc elles sont là, elles attendent, elles tuent le temps, un peu comme dans le roman de Buzzati, quoi. On tue son temps, on essaye de le passer.
On attend que les trains arrivent.
On attend que les trains arrivent. Voilà. Elles sont là, elles attendent, elles espèrent. Elles ont un credo, la frontière va rouvrir. Parce que la frontière est fermée. La frontière va rouvrir. Et donc, pour elles, c'est ça qui est important. Il y a cette vieille un peu énigmatique qui pourrait être une parque, c'est-à-dire quelqu'un qui est celle qui donne à la fois la vie et la mort, et qui rôde, qui va donner la vie au cuistot en lui donnant une canne à pêche pour qu'il puisse pêcher. Et c'est ça qui va le sortir de sa difficulté de vivre. Il émerge dans cet hôtel sans savoir ni comment il y est arrivé, ni éventuellement qui il est, puisque ça reste un mystère. Et c'est cette femme-là, elle est une sorte de représentante du destin et qui va faire basculer ou pas les choses. Oui, Pierre ?
Oui, c'est vrai. Ça la sort, je dirais, presque de sa léthargie au début. Parce que, voilà, comme vous dites, il se demande où il est, il se demande pourquoi, comment, enfin, qu'est-ce qu'il peut faire à partir de là. Et c'est grâce, effectivement, à cette canne à pêche que tout va basculer pour lui.
Mmh. Où il devient... Alors, ça fait penser un peu à ce dicton. Hein, donne un poisson à un homme, tu le nourris la journée, donne-lui une canne à pêche et apprends-lui à pêcher, et tu le nourris pour sa vie. Et je trouve que c'est l'image est très, très forte. Mais il y a aussi tous ces personnages, quoi. Même le peintre, qui pourtant est un personnage totalement aviné, qui a tué visiblement un autre personnage qu'il essayait de peindre et qu'il a tué parce qu'il n'arrivait pas à le peindre beau comme il le voyait.
Il y a une forme de rédemption.
Oui, il y a quelque chose dans ce peintre-là, une recherche d'un absolu inatteignable, bien sûr, mais qu'il se refuse à voir comme un absolu inatteignable.
Je ne sais pas s'il l'a tué au début ou si, au contraire,
ou s'il croit.
Il trouve la beauté dans des corps morts dès le début. Parce que dès les premières pages, on le voit arriver devant quelqu'un en lui disant « Tu es beau, tu es mort, tu es beau ».
Oui.
Ça rappelle d'ailleurs ça, cette expo qu'il y avait eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, alors je ne sais plus dans quel lieu ça avait eu, où c'est des gens qui avaient donné leur corps pour que leur corps mort soit présenté lors d'une œuvre d'art contemporaine.
Oui, c'était à Munich.
C'était à Munich,
Je ne me souviens plus le nom du...
Voilà, ça avait déclenché un scandale au niveau international alors que les gens avaient donné, et c'était juste une œuvre plastique, donc on voyait des corps morts. Moi je me rappelle, c'était assez saisissant. Et effectivement, ça m'a fait penser, ça m'a renvoyé à ça. Je ne me souvenais plus où c'était Munich ou quoi. Vous me le rappelez, merci Diego Arrabal. Et c'est vrai que bon, là-dessus, c'était vraiment bien. Après, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la page de couverture. Je dis souvent, moi, je compare souvent dans un livre ou un roman graphique ou une BD, je compare souvent la première de couve, donc la première de couverture, donc la page de garde au CV. Et je dis que la première de couverture est au CV, ce que le résumé, donc la quatrième de couverture, est à l'entretien de recrutement. C'est-à-dire que lorsqu'une couverture est bonne, on le voit dans une librairie, hein, vous êtes libraire, Pierre, vous le savez, les gens, on arrive, quand on est lecteur ou lectrice, on a plein de romans devant nous, lequel on va choisir en premier ?
Celui qui a la couverture qui nous plaît le plus.
Celui qui a la couverture évidemment. Qui nous plaît le plus. Et ça, c'est le CV. C'est-à-dire, on repère le CV, on le retourne, et à partir du moment où on le retourne, on a l'entretien de recrutement, on convoque la personne. Voilà. Et c'est comment, effectivement, on arrive à se rendre. Et là, ce que je trouve très bien, c'est ce regard qui vient nous chercher. C'est le regard de cette femme.
C'est un regard qui nous suit.
On ne sait pas si c'est un regard fragile, si c'est un regard... c'est pas si un regard fragile, un regard apeuré, un regard qui s'interroge, un regard qui se tourne vers le futur. J'avoue que ça m'a... Je l'ai regardé pendant plusieurs secondes avant de l'ouvrir, en me disant, tiens, pourquoi l'auteur a fait... a choisi effectivement de faire, ou en tout cas peut-être avec l'éditeur, hein, parce que c'est toujours un travail après avec l'éditeur effectivement qui est fait, de faire ça. En tous les cas, moi, c'est, encore une fois, hein, je le redis, hein, je vais me répéter, mais le jury ne sélectionnerait pas ce type de roman graphique, moi, j'aurais jamais été le chercher. Voilà. Et je trouve que c'est bien, parce que ben, aujourd'hui, vous êtes là pour en parler avec nous, Pierre. Donc, je rappelle, hein, vous êtes le responsable de la librairie Le Vendémois à la Nemezan. Hein, donc voilà. Vous voulez dire un mot dessus, peut-être, Pierre, encore ?
Je voudrais dire que, oui, effectivement, bravo au jury pour la sélection qui est extraordinaire, que justement, ce genre de prix est là pour ça, pour faire découvrir des livres qui ne sont pas forcément les plus connus, et que nous, les libraires, aussi.
Exactement.
On est là pour ça. Est-ce qu'il me reste 10 secondes ?
Oui.
Ah,
oui.
Alors, s'il me reste 10 secondes, je parle d'un livre que j'ai adoré ces derniers temps, qui s'appelle « Hors d'atteinte » de Marcia Burnier, qui, j'espère, sera dans la sélection l'an prochain.
Ah, vous entendez Renaud de Bellefond ?
J'espère fortement.
Il espère sera dans la sélection l'an prochain.
C'est une femme qui se libère de l'emprise d'un homme sur Paris, au départ. Elle vit à Paris, elle est sous l'emprise d'un homme, elle se libère, elle part avec son chien, elle part en Ariège.
Ouais.
Et elle part découvrir la beauté du monde.
D'accord.
Toute la beauté du monde.
Donc ça fait le lien. Ça fait le lien.
C'est aux éditions ?
C'est aux éditions Cambourakis, Hors d'atteinte de Marcia Burnier.
Cambourakis, c'est une maison d'édition qui est basée où ?
Cambourakis. De mémoire, sur Paris.
Sur Paris. C'est, je voulais savoir là, si c'était une maison d'édition éventuellement pyrénéenne. D'accord,
non, celle-ci non, mais c'est pour l'histoire qui se passe essentiellement en Ariège.
Bon, et bien écoutez, on retient. Ben, vous retenez pour l'année prochaine. Donc c'est dans la liste. Qui est retenu. Voilà, l'appel est lancé par la librairie Le Vendémois.
La liste des cadeaux
au jury 2024.
Parce qu'on est là pour ça aussi.
Voilà, exactement. Non, mais on a bien compris.
Oui, les libraires du département, notamment avec qui on a des contacts, nous font connaître des livres aussi.
Ah, d'accord.
Aussi. Et c'est certains livres,
pour
on
la sélection.
Grâce aux
d'accord,
libraires,
ça on l'ignorait.
Notamment
okay.
Le Vendémois depuis des années, mais aussi le Square à Lourdes, auprès de Pyrénées aussi,
de Pyrénées,
très régulièrement, puisqu'on le voit
juste
régulièrement.
Après, voilà, dans la prochaine interview. Voilà.
Donc effectivement, il y a tout un, on a aussi un rapport avec les libraires pour découvrir les livres et pour sélectionner les livres.
Bon. Très bien, merci.
En tous les cas, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour ce livre « Toute la beauté du monde » de Thomas Azuelos aux éditions Futuropolis, prix du livre pyrénéen, Binaros 2023. Pierre Aragon, merci. Je rappelle que vous êtes le responsable de la librairie Le Vendémois, donc à La Nemezan. Et on pourra peut-être, on en discutera tout à l'heure en aparté, peut-être vous recevoir la semaine prochaine donc par téléphone, si c'est possible à l'antenne, pour parler effectivement de ce roman.
Avec grand plaisir. Merci à vous.
Merci à vous. On va enchaîner.
On va enchaîner avec Marc Besson parce que
avec Marc Besson,
les derniers auteurs que nous attendions sont dans le bus et donc ils devraient arriver. Donc on a un peu chamboulé notre emploi du temps et donc on va d'abord recevoir Marc Besson pour nous expliquer un peu sa présence ici, quels sont les auteurs qu'il a sélectionnés.
Voilà. Alors Marc Besson, on précise, hein, c'est la librairie donc auprès de Pyrénées, donc à Bagnères-de-Bigorre, qui a un stand donc ici durant les deux journées donc du Salon du Livre pyrénéen de Bagnères-de-Bigorre, qui se déroule donc, on le rappelle, les samedis 7 et dimanche 8 octobre donc au Carépi à Bagnères-de-Bigorre. Bonjour Marc Besson, donc cette sélection.
Bonjour. Donc la 14e. Hein. 14e maintenant.
C'est le chiffre du jour, on a dit tout à l'heure. On a dit que c'était le 14, ouais. Le chiffre du jour.
Un salon qui continue à drainer énormément de professionnels de toute la chaîne. On aura un hommage tout à l'heure sur la partie espagnole, la partie sud, avec la présence de nos collègues auteurs et éditeurs espagnols. Certains auteurs donc viennent seuls, certaines viennent au sein de stands d'éditeurs, et donc le salon est quand même orienté avec des stands d'éditeurs qui viennent proposer leurs nouveautés et nouveautés qui sont soutenues par leurs auteurs. Quoi, voilà. Le principe du salon, c'est des stands d'éditeurs soutenus par des auteurs.
Et les différentes librairies, parce qu'il y a votre librairie qui est quand même une place centrale et qui accueille un nombre assez important d'auteurs. Combien d'auteurs vous avez cette année ?
Alors voilà, les libraires viennent compléter,
apporter le soutien à des auteurs dont l'éditeur n'est pas sur place.
Voilà, j'aurai une dizaine d'auteurs sur le week-end, autant des romanciers que des techniciens, enfin que ça soit des ornithologues ou des grimpeurs.
Alors, quand vous dites 10, ça veut dire que ça tourne ? Ça veut dire qu'ils ne restent pas tous tout le week-end ?
Certains viennent les deux jours et puis certains quand même se gardent un petit peu de présence pour le week-end.
D'accord.
Une journée au salon, une journée parfois en montagne avec ce temps.
D'accord. Alors, ça veut dire là aujourd'hui samedi, est-ce que vous pouvez nous dire pour cette journée, donc du samedi 7 octobre, qui va être présent donc, pour dédicacer ? Vous ne le savez pas, ce n'était pas la question à vous poser. Vous savez que vous avez droit à deux jokers. Hein. Alors, vous venez de tirer le premier joker.
Voilà,
le joker. Alors, je repose ma question, qui sera présent dimanche 8 octobre ?
Bon, deuxième joker.
Deuxième joker, et bien voilà, vous avez épuisé le joker.
Non, il y en a, c'est facile. La famille Caden, c'est facile. D'accord. Ce sont des passionnés d'oiseaux. Et ils en sont à la deuxième édition de leur livre sur les oiseaux pyrénéens.
D'accord.
La famille Caden, c'est une maman et un fils, le fils ayant largement la trentaine. Donc les deux se complètent dans l'écriture du livre et au salon aussi. Voilà, plusieurs. Oh, dans les grands auteurs habituels, Claude et Nanou Dendalech. Pascal Sancho, dans les auteurs de polar, c'est vrai que je fais leur connaissance. Diego Arrabal, hein, oui, il est un peu connu ici, mais il a aussi son.
Ça vous dit quelque chose, Philippe Tuberca, Diego Arrabal, ça vous parle ou pas ?
Non. Là, comme ça.
Comme ça, non. Mais bon, aussi, c'est marrant, nous aussi, non ?
Non,
c'est pas comme ça. C'est l'homme à la cravate, peut-être, que l'on voit à l'intérieur et au chapeau.
Jeune marié.
Voilà, j'ai pas osé le dire, vous l'avez dit pour moi.
Voilà, donc, un éventail. Je crois que ce qu'on peut dire vraiment du Salon du Livre Pyrénéen, c'est que les sujets sont variés sous un thème. Vous avez aujourd'hui des sportifs, les grimpeurs, randonneurs, je dirais presque kayakistes, parapentistes, etc. Enfin, les trailers, maintenant, qui ont leur topo guide pour le trail, etc. Des nouveaux arrivants donc, dans ce sujet-là. Comme des livres d'histoire sur le Pays Basque, l'Aragon ou la Catalogne. On a vu ce livre presque de la BD, hein, on va dire. On a de la science-fiction, on a du roman.
Il y en a pour tous les goûts, donc ça veut dire que les gens qui viennent effectivement sur le Salon du Livre Pyrénéen de Bagnères du Bigorre, hein, on le dit pour les gens qui prendraient l'émission en cours de route, hein, qui se déroule les samedis 7 et dimanche 8 octobre, donc de 10h à 19h aujourd'hui, et demain de 10h à 18h. Voilà, c'est ça. J'ai bien retenu. Hein, je serai pas bon pour la session de septembre, Diego Arrabal. Voilà,
vous ne serez pas obligé de revenir en septembre. Vous êtes... Vous avez bien retenu votre leçon. C'est parfait. Dites-moi, Marquez, vous avez lu une partie des ouvrages qui ont été présentés au jury.
Oui, la montagne inversée.
Par exemple, oui, dont nous allons recevoir les auteurs juste derrière.
Après, voilà, une petite d'arriver à l'instant,
musicale,
on les voit pas, voilà,
qu'ils aient le temps de souffler un peu.
De boire un café, de boire un verre.
De boire un café et puis de se préparer à passer, puisque là, ils sont dans la course. Train, bus, autostop, et puis course jusqu'à
la placard.
voilà. Donc Marc, voilà. Excusez-moi. Non, je
vais pas, je
blague
vais pas trop
peu.
En parler puisque je vais leur laisser. Mais voilà, des fois on dit le travail journalistique c'est un travail rapide parce que on arrive sur un sujet.
Il faut boucler pour le lendemain.
Et puis à une journée, deux journées, 15 jours. Et voilà, il faut pondre quelque chose. Et là, c'est sur plusieurs années. C'est vraiment le travail journalistique au bon sens du terme. Un travail de fond, long, surprenant. Voilà. Mais j'en dis pas plus. Voilà.
Oui, un travail de journaliste un peu à la Herbert Londres. C'est-à-dire de ce travail qu'il y avait à la fin du 19e, au début du 20e, où, comme Hemingway et tout ça, des grands auteurs que nous connaissons comme romanciers étaient d'abord et avant tout des journalistes. Oui. qui avaient une écriture, une belle écriture, et qui donc, bah, je veux dire, ce qu'ils écrivaient en termes de chronique avait une telle qualité que ça pouvait donner lieu à des romans. Pour parler d'Hemingway, il y a eu la publication d'un certain nombre de ses chroniques qu'il avait faites entre 1930 et 1940, qui a été publiée. C'est des articles qu'il publiait dans différents journaux qui ont été publiés, et c'est aussi beau qu'un roman. Donc je crois que c'est important,
voilà,
de le dire.
Ouais. C'est ça, mais c'est un suivi sur plusieurs années. C'est revenir sur le sujet, comparer, compléter, plusieurs années après, avec les contacts qu'ils avaient eus la première année. Mais je ne vous en dis pas plus.
Oui, oui. Mais on leur laissera la parole
tout à l'heure. On leur laissera la parole effectivement. Tout à l'heure.
Et est-ce qu'il y a d'autres ouvrages qui vous ont marqué, là, parmi ceux... Alors, pas forcément les primés, mais des ouvrages qui ont été dans la liste des primables. Je ne sais pas si ça peut se dire, mais bon. Qui étaient dans la liste des primables et qui vous ont frappé et qui auraient pu, peut-être...
Moi, je pensais à un roman des éditions Passiflore qui était dans la liste des... Hein, voilà.
L'Enfant d'Ombre, oui, qui était surprenant.
J'ai beaucoup aimé, je l'ai lu, moi, je l'ai trouvé formidable.
C'est presque une nouvelle, hein, c'est assez court,
ouais.
C'est surprenant. Oui, je pense à... Non, mais là, il ne faut pas que je me mélange, parce qu'il y a déjà les livres pour l'année suivante, mais qui n'ont pas le droit de concourir cette année.
Voilà,
oui, oui.
Voilà, celui dont je parlais là, c'était celui qui était en concours pour cette année. Voilà.
Il faut laisser le temps aux lecteurs du jury
de les lire, bien sûr. Non, mais moi, je parlais bien de ceux qui ont été proposés aux lecteurs.
C'est pour ça que je parlais de l'Enfant d'Ombre, parce que je savais qu'il était dans la liste, effectivement.
Il y en a trop pour que vous puissiez répondre, c'est ça, Marc ?
Je ne sais pas, rien ne me vient là comme ça. Mais
vous savez que vous n'avez plus de troisième joker. Hein,
c'est toujours difficile. Quand je reçois un livre, je me dis, tiens, voilà, bon, ça c'est une nouveauté, il va concourir. Un bon livre, est-ce qu'on le prime ? Est-ce qu'il est vous avez des livres qui sont tout à fait bons, mais est-ce qu'ils vont être primés ? C'est pas tout à fait la même chose. Se régaler avec un livre et se dire, est-ce que ce livre... Il lui faut un bandeau. Alors le bandeau aide évidemment, mais un accent. On l'a bien vu avec. Vous avez dit, je l'aurais pas choisi.
Oui.
Et moi, je ne l'aurais pas choisi.
Aucun des quatre, hein, mais quasiment chaque année. Hein.
La montagne inversée. Il s'agit bien de quelque chose qui est un petit peu éloigné des Hautes-Pyrénées, qui est bien dans le massif.
Oui, massif. Ouais.
Mais je suis persuadé que le bandeau va aider pour toute la chaîne, tous les libraires. Partenaires de Binaros, du Salon du Livre Pyrénéen, vont recevoir ce bandeau, pourront, s'ils le veulent, ou l'éditeur, soutenir avec un bandeau ce livre. C'est une aide pour le libraire et pour le lecteur.
J'ai une question d'ailleurs. Ils sont nombreux les partenaires donc libraires au niveau de la chaîne Pyrénées. Vous êtes capable de répondre à ça, cette question, Renaud de Bellefond ?
Je pense qu'on doit tourner autour d'une cinquantaine de contacts.
D'accord. Cinquantaine de contacts dans des départements.
Un peu optimiste, allez.
Qui partent de Biarritz jusqu'à Perpignan.
Jusqu'à Perpignan. Ouais.
D'accord.
C'est variable suivant les années, enfin, suivant qu'on y est passé ou pas. Voilà. Mais voilà, l'idée c'est de créer effectivement tout ce lien, je pense qu'on l'améliore. Et cette année par exemple, c'est la première année, on a fait une affiche avec les quatre prix qu'on a envoyé à tous les libraires dont on a les contacts.
D'accord.
Pour qu'ils puissent afficher les, voilà, leur...
Avec l'argumentaire.
Avec l'argumentaire en plus envoyé aussi.
D'accord, ok. Donc derrière, il y a un vrai travail après qui est fait autour de la vie du prix.
L'idée,
entre le moment où il le reçoit, le moment où on arrive sur l'année d'après...
L'idée, c'était d'avoir quand même un jury vraiment indépendant. Hein. Voilà, on groupe une dizaine d'adultes intéressés, motivés, sans aucune pression éditoriale, commerciale, quoi que ce soit. C'est très rare hein, pour les prix. Hein. C'est très, très rare.
Il y a une indépendance.
Pour les prix nationaux, c'est vraiment... Voilà. Tout le monde peut participer.
Mais tout le monde n'a pas la même chance de gagner.
À la rigueur de lecture... Il y a des réunions qui se complètent tout au long de l'année. Et donc, on peut considérer qu'il y a quelque chose derrière ces livres. Voilà, ça a été, il y a quelque chose, forcément. C'est plusieurs personnes qui disent oui, après maintes réflexions, etc., des débats, parfois houleux, hein, qui se disent oui, ok, ceux-là, on les valide. Voilà, donc au milieu d'une soixantaine de titres par an sur le sujet... Voilà, on peut se dire, ben, ceux-là, ils valent le coup.
D'accord.
Et les autres aussi, attention, oui, oui. Ils valent le coup. On peut avoir au moins regarder leur quatrième de couverture et un peu plus, parce que des fois la quatrième de couverture peut ne pas suffire au livre. Hein. Mmh. Voilà.
Moi j'avais juste une question. La sélection en termes des quatre prix, de ventilation sur les quatre prix, elle se fait a priori, c'est-à-dire avant de les soumettre au jury, ou c'est à l'issue du travail du jury que vous prenez la décision de ventiler sur les différentes catégories ?
Un peu les deux, ça se fait. C'est un mélange, parce que on fait des propositions au jury quand on reçoit les livres. Et à vrai dire que le jury, quand il dit non, ça c'est vraiment pas cette catégorie, ou ça pourrait aussi être là, là et là. D'où d'ailleurs l'intérêt de la catégorie Binaros. Si on a pu primer toute la beauté du monde cette année, ce roman graphique, c'est même parce qu'on a cette catégorie, ce livre oui. ne rentrait pas dans les autres catégories. Voilà. Et ça se discute au fur et à mesure.
D'accord.
Il y a souvent, même dans les dernières réunions, dans les réunions de films, des fois il y a des changements de catégorie.
Ok.
Bon. Eh bien, on va enchaîner avec Philippe Subercase, une pause musicale, et redonner la parole à Joseph, qui va à nouveau nous pousser la chansonnette, donc depuis Lourdes.
Qui nous attend avec impatience, voilà.
On nous attend, bien entendu, toujours avec impatience.
On est bien au Salon du Livre, Pierre-Léa, ici à Bagnères, au Carépi. À tout de suite.
On a tous des choses que l'on n'a pas, une famille, des amis, des habits ou un appart. On fait tout ce qu'on peut, tout ce qu'on doit, mais parfois c'est la vie qui nous prive de voir. Bien sûr qu'on est chacun avec sa chance, mais certains trouveront la chance en chemin. C'est sous la pluie qu'on apprend le mieux à danser, on va plus haut quand on revient de loin. Ce qu'on vit, ce qu'on veut, ce qu'on voit, c'est la même chose je crois. Ce qu'on fuit, ce qu'on dit, nos combats, on est les mêmes, je crois. Hey, viens, on aime qui on est. Viens, on aime ce qu'on a. Pas besoin d'aller vite, le bonheur on l'évite alors qu'il était là. Viens, on aime qui on est. Viens, on aime ce qu'on a. Sur notre épaule, quand le bonheur nous frôle, c'est bien qu'il était là. On voudrait tous ce qu'on n'a pas, cheveux longs, une maison ou une belle brune à son bras. Celui qui a tout peut toujours plus oublier d'être heureux et jouer à la roulette russe. Bien sûr qu'on perd un peu notre innocence, le destin nous frappe sans prévenir. Il suffirait de ça mais de patience pour voir enfin les bons jours revenir. Quelquefois, quand on n'a plus de voix, il est peut-être temps de s'écouter. C'est alors que l'amour fait sa loi. Qu'on trouve quelqu'un pour être à nos côtés.
Mathieu Pokora sur Présence, qui nous chantait cette très belle chanson, c'est Qui on est.
Radio Présence à Lannemezan, 92.2.
Voilà, le temps de retrouver mes boutons et de retrouver Philippe Subercase en direct du Salon du Livre à Bagnères-de-Bigorre.
Qu'est-ce qui est le plus facile, toujours retrouver les boutons ou me retrouver?
Non, finalement, mon cher Philippe, ben les deux. Voilà, nous sommes au travail et pour le service de tout le monde, et c'est très bien.
Très beau choix musical, toujours. Voilà, on est bien en direct du Salon du Livre, ici à Bagnères-de-Bigorre, au Carépi, toujours avec mes deux acolytes, Philippe Nouni et Diego Arrabal, qui prennent toujours un grand plaisir de faire ce direct.
Tout à fait. Alors, acolyte et pas alcoolique. Hein.
Mais oui. Aucun des deux, d'ailleurs. Hein.
Non, non.
Bon, on reprend donc avec, on reçoit Romain Escurieux et Antonin Vabre, hein, qu'on remercie d'être avec nous après leurs aventures, donc pour arriver jusqu'ici, donc en bus, etc., en train. Alors, pour La Montagne Inversée, donc qui a été publiée aux éditions Marchiali, qui a reçu le prix du livre pyrénéen Connaissance 2023, et bien entendu, on va commencer par la chronique de Diego Arrabal.
Eh bien voilà, on va faire une chronique, j'espère qu'elle sera bonne. Et que... Alors généralement, je fais la chronique, les gens sont au téléphone, donc ça va, je cours peu de risques. Là, ils sont juste en face de moi, donc en plus, Ils ont la moitié de mon âge et peut-être
oui.
moins.
Non, mais ils, ont, donc ils ont le sourire.
Je pense
sourire,
mais ils ont pas
beaucoup
entendu
plus,
encore
beaucoup,
ma chronique.
Beaucoup plus, ouais.
On verra après sont, la chronique.
Ouais, s'ils sont beaucoup plus jeunes que ça, ou c'est vous qui êtes beaucoup plus vieux, Diego
bon, allez-y. Je sais pas. Bon. Deux jeunes hommes fuient à travers une pente escarpée, dérapant sur les cailloux, s'accrochant aux branches épineuses. Au-dessus d'eux, l'angoissant vrombissement des pales d'un hélicoptère en chasse se rapproche. Ce n'est pas le début d'un film américain. Nous sommes le 21 décembre 2012 en France, dans l'Aude, à Bugarache plus précisément, au cœur d'un emballement irrationnel amplifié par la boulimie médiatique. 10 ans plus tard, ces deux jeunes journalistes reviennent sur les lieux de ce déchaînement incroyable afin d'essayer de comprendre comment cela a pu être possible, mais aussi de constater ce que cela a changé pour ce petit village tranquille. L'occasion pour eux d'explorer enfin cette montagne à l'envers, ainsi qu'on définit le pic de Bugarache. Dans ce récit, nous croisons des natifs, mais aussi des figures plus connues et sulfureuses pour certaines, telles que l'abbé Saunière et le mystère de l'origine de sa fortune, Elisabeth Van Buren, Jean de Rignis ou Jimmy Gueux, José Arguelas, Sylvain Duris, dit le Christ cosmique, etc. Une solide enquête journalistique qui se donne à lire comme un roman. La montagne inversée, Romain Lescurieux et Antonin Vabre, édition Martialis, prix du livre Pyrénéen Connaissance 2023. Ils sont devant moi. Bonjour Antonin, qui est juste en face de moi. Bonjour Romain, qui est, lui, juste en face de Philippe.
Bah bonjour Diego, et merci pour cette chronique réussie.
Merci beaucoup, et merci de nous accueillir, surtout.
Pourquoi avoir écrit ce livre ? Qu'est-ce qui vous a appris d'écrire ce livre à un moment donné ?
Allez, vas-y Romain.
Il y avait ce qu'on a expliqué un petit peu, c'est qu'il y avait un goût d'inachevé. 10 ans après, on arrivait à bientôt là, cette date anniversaire avec Antonin. Donc on était parti à Bugarache le 21 décembre 2012. On était devenus journalistes, nous, entre-temps. Et puis, on a écrit un premier livre ensemble. Donc déjà, on avait eu cette expérience. On a eu envie d'en réécrire un deuxième. On a un petit peu brossé tous les sujets. Très vite, il y a Bugarache qui est revenu. On s'est souvenu, nous, déjà à titre personnel, individuel, de notre expérience. Et plus globalement aussi, ce moment qui a été quand même assez inédit dans le journalisme français. Et on s'est demandé déjà ce qu'était devenu ce village, ce qui est devenu cette montagne. Et déjà, dans un premier temps, on s'est dit faut y retourner pour voir. Et on est reparti sur place pour essayer de d'avoir quelques réponses, en tout cas, à nos questions.
Oui, et puis j'ajouterais que quand on y était allé justement en décembre 2012, on avait fait le tour de la montagne. Et les principaux fantasmes, ils sont à l'intérieur du pic, en fait. Et Romain m'a dit, je pense que ce qui serait intéressant, ce serait d'explorer cette montagne. Donc lui, il a réussi à trouver un guide spéléolocal pour faire cette visite de l'intérieur du pic. Après, ce qui est assez rigolo, entre guillemets, c'est qu'au départ, nous, on partait sur une fiction. On ne partait pas du tout sur une enquête journalistique. Et une fois qu'on a fait cette visite du pic de Bugarache, on est rentré en contact par l'intermédiaire d'un ami avec Cyril, donc des éditions Martialis, qui nous a dit le thème nous intéresse, par contre il faut que ce soit une enquête journalistique, on veut du vrai. Et en parlant avec Romain, après on s'est dit mais c'est que de toute façon, il y a des fois où la réalité elle est au-dessus de la fiction.
Mais oui.
Et là on s'est dit ok, banco, d'autant plus qu'il y avait cette maison d'édition derrière qui était prête à nous soutenir.
Oui, oui. Je veux dire, Philippe ne me contredira pas, on est auteurs
jamais,
tous les deux.
Jamais.
Voilà. De toute façon, il n'a pas
je
intérêt.
Je ne contredis jamais.
Il a pas
vous
intérêt.
Vous êtes l'aîné.
J'ai toujours le Glock dans ma veste, donc il n'a pas intérêt à me contredire. Non, on est tous les deux auteurs et on sait bien, enfin je ne sais pas pour vous Philippe, mais moi il y a des moments où je me dis non, je ne peux pas écrire ça. Mes lecteurs ne vont pas le croire. Or, parfois, c'est des situations réelles que j'ai pu observer ici ou là, mais où je me dis, non, je ne peux pas le mettre, les lecteurs ne vont pas le croire. Et c'est vrai que la réalité est souvent très, 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 très au-dessus de la fiction du point de vue d'improbabilité.
Alors, on va lire un extrait de votre roman, parce que c'est en page 75. Pour resituer un peu ce qui se passe à Bugarache, parce que je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui tous les auditeurs et toutes les éditrices savent ce qui s'est passé. Et à travers cet exemple, effectivement, ils vont comprendre un peu ce qu'il en est. Parallèlement à ces avancées, Jean Dargoun, l'ufologue qui racontait être entré en contact au sommet du pic de Bugarar, une nuit de mai 1998, avec un vaisseau spatial sorti de Hublot, venait de sortir un livre, « La montagne sacrée ». Les temps de la révélation finale sont arrivés, écrivait l'auteur. Amusé par cette lecture, les spéléologues lui dédièrent un passage de Buffaufret, celui des intraterrestres, non loin de la galerie des Petits Gris, surnom donné aux extraterrestres en référence à la littérature de science-fiction des années 1960-1970. Il savait que le pic excitait l'imaginaire de ceux qu'il surnommait les ozotériques. Ils avaient déjà aperçu des traces de visiteurs qui aimaient s'aventurer au début du réseau, des amulettes, des poupées, des bougies, un oiseau mort, sans savoir comment le volatile était arrivé jusque-là. Voilà, ça situe un peu l'action, c'est-à-dire que ben voilà, début 2012, on dit voilà, c'est la fin du monde, tout le monde sera à Bugarar, des gens du monde entier. Hein. Puis ils se disent, ben voilà, on est là, on sait qu'on pourra survivre. Puis il ne se passe rien.
Disons que c'était la crainte qu'il y ait des gens du monde entier qui viennent. Finalement, il y a eu des journalistes du monde entier, mais le village a été tellement bouclé par les autorités.
Par les autorités,
que,
par les
gendarmeries. De toute façon, c'était impossible d'y accéder. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, moi je trouve, c'est justement le côté absurde où finalement tout le monde se monte un peu la tête. C'est une réflexion qu'on a eue un moment avec Romain, c'est de se dire, mais finalement, qui est-ce qui se plante à un moment? Comment est-ce qu'on arrive à ce pataquès? Et on y arrive, et c'est difficile de trouver des responsabilités individuelles. Finalement, tout le monde a ses responsabilités individuelles. Mais c'est aussi la manière dont se font les choses dans notre société qui font qu'on arrive à du théâtre de l'absurde total, comme cette histoire de Bugarach, où un village, pour un solstice d'hiver, un village de 300 habitants, se retrouve bouclé avec 300 coupé journalistes et
600 gendarmes.
Et c'est comment on en est arrivé à dire pourquoi Bugarar, pourquoi pas une autre montagne? Parce qu'il y en a plein de montagnes en France. On aurait pu sélectionner n'importe quelle montagne, en Auvergne, dans les Pyrénées, dans les Alpes. Pourquoi celle-ci?
Et ça, c'était une des grandes questions. Il y avait l'idée de remonter toute l'histoire d'une rumeur. Nous, c'était vraiment de se dire comment on en est arrivé là, dans ce village, autour de cette montagne. Et en fait, la montagne inversée, c'était aussi de retracer le portrait, l'histoire de cette montagne. On le dit à un moment dans notre livre, mais c'est réel. À un moment, on nous a conseillé d'aller poser directement nos questions à la montagne. Ce qu'on n'a pas vraiment fait, mais en fait, à travers tous les gens qui gravitent autour, on essayait d'en apprendre à chaque fois un petit peu plus sur celle-ci. Donc en fait, c'est multifactoriel, il y a plein de raisons. C'est qu'elle a attiré déjà, elle a attiré à un moment des gens plutôt branchés sur le New Age, il y a eu toutes des phénomènes de néo-ruraux, il y a le fait qu'elle soit géologiquement, les couches soient inversées. On lui a toujours prêté énormément finalement de bienfaits, ou de mythes, ou de légendes. Et au fur et à mesure, tous ces fantasmes se sont superposés. En fait, c'est un millefeuille de croyances. On peut retrouver les ovnis, on peut retrouver les trésors. En ce moment, le pic de Bugarach est mis en avant pour ses bienfaits, pour ses énergies. Les énergies, donc dans une mouvance plutôt ésotérique, avec le regain de l'ésotérisme, notamment chez les plus jeunes. Donc en fait, c'était pas un mystère que cette montagne se retrouve là le 21 décembre, parce que elle a aussi un lien avec la culture maya, parce que des mayas, en tout cas des descendants ou dits ancêtres mayas sont venus. Voilà, donc c'est une montagne de pèlerinage. C'est une montagne qui s'était déjà retrouvée en 1987 sous le feu des projecteurs lors d'un grand rendez-vous New Age. En fait, à ce moment-là, autour d'Elisabeth Van Buren, une date avait été donnée en 1987. C'était l'ouverture du cycle. Ils se sont retrouvés sur le pic de Bugarach. Ce cycle devait se refermer en 2012. Donc en fait, quand on avait retrouvé ça, voilà, ça devait se passer autour de cette montagne.
Oui, ce qui est plus extraordinaire, c'est l'ampleur que ça prend. C'est-à-dire que des illuminés, des gens qui prédisent la fin du monde, etc., il y en a plein. Mais la plupart du temps, ça retombe comme un soufflet qu'on sort trop tôt du four. Et là, ça prend, et ça prend même énormément d'ampleur, beaucoup plus d'ampleur d'ailleurs au niveau international qu'au niveau national. Alors que les gens ne se déplacent pas plus. Mais c'est quand même quelque chose
d'important. En fait, ce qui est assez fou justement dans ce que vous dites, oui, c'est ça, c'est que ça part d'un article d'un journal local, d'un article qui peut se retrouver au milieu ou à la fin d'une édition qui finalement a un en-tête en couverture, et deux semaines après c'est repris par l'AFP, et deux mois après c'est dans le New York Times. C'est ça qui est complètement dingue en fait. Et c'est difficilement explicable.
Et c'est vraiment à lire. La montagne inversée, Romain Lescurieux, Antonin Vabre, venez les rencontrer. Hein. C'est un sous-titre d'expédition dans les méandres du fantasme aux éditions Marchiali. Donc vous venez les rencontrer quand vous voulez sur le stand de Marc Besson, c'est ça. Hein, donc libraire à Bagnères-de-Bigorre. On va céder, place au célèbre ufologue Joseph. Le célèbre ufologue Joseph qui est dans les studios.
On va remercier bien sûr tous les gens qui ont participé à cette émission. Hein, bien sûr, et merci à toute l'équipe de chaque année de ce salon qui nous accueillir, Binaros. Merci beaucoup à Monsieur Renaud de Belfond. Merci à tout le monde, à la coprésidente aussi qui était là avec nous. Merci à tout le monde. Et puis on se retrouve peut-être pour une prochaine émission l'année prochaine.
Bah, déjà, on se dit oui au prochain salon, mais on invite les gens à venir au salon du livre pyrénéen ce week-end.
Samedi 17 et dimanche 8 octobre. Exactement.
Et oui, parce qu'il débute aujourd'hui. Il est là. Venez. Parce que nous, on y est. Donc venez, effectivement.
Venez rencontrer les auteurs, venez chercher les livres, venez vous enrichir et venez discuter avec nous.
Et à nous, à la semaine prochaine. Au revoir. Merci Joseph. Merci.
Merci à toute l'équipe de Radio Présence et puis de cet amour du livre qui nous ont fait partager depuis le Salon du Livre de Bagnères-de-Bigorre.